Finché ci sarà luce solare, sarà a disposizione l'energia per la vita. Ma come faremo per gli elementi base usati dalle piante per produrre cibo? L'azoto, per esempio. Immaginiamo un atomo di azoto contenuto in una proteina, parte di una cellula vegetale. In inverno, quando le piante seccano, la proteina è digerita da un batterio e il nostro atomo è incorporato in una proteina batterica. Il batterio è mangiato da un lombrico che restituisce alla terra l'atomo di azoto sotto forma di prodotto di rifiuto. Assorbito da un pelo di una radice, il nostro azoto è di nuovo incorporato in una proteina vegetale. Gli animali mangiano le piante e a loro volta sono mangiati o muoiono. Nulla viene sciupato e le molecole prese in prestito ritornano al loro sistema attraverso organismi con attività di spazzini o decompositori. Il continuo mescolamento delle molecole è un processo ecologico importante. Se gli elementi di base non sono messi in circolazione, un ecosistema avviene meno e fornisce possibilità di vita sempre minori. Questo avviene quando gli animali di un pascolo sono venduti. Essi portano via molecole prese a prestito e il pascolo diviene meno produttivo. La perdita di sostanze deve essere bilanciata dall'acquisto di altre se un ecosistema deve continuare nel tempo. Un sistema di riciclaggio tiene in vita un ecosistema naturale. Ad ogni modo, l'agricoltura moderna è un sistema ecologico che per la maggior parte delle volte non ricicla le sostanze. Il raccolto è portato via, le sue molecole passano attraverso il nostro corpo e sono depositate in un impianto per lo smaltimento dei rifiuti. Da qui finiscono in un fiume o al mare e in pochi casi tornano nei campi per nutrire nuove piante. Invece si immette nella terra un fertilizzante prodotto con alto costo energetico per garantire il raccolto dell'anno seguente. Per quanto tempo può continuare a lavorare questo sistema forzato di produzione del cibo? È un'altra importante domanda alla quale i nuovi studi di ecologia umana cercano di dare risposta. L'ecologia è una scienza relativamente nuova, ma le sue scoperte già recano un importante messaggio. Gli esseri umani sono parte del grande sistema che garantisce la vita della terra. Il modo in cui adattiamo le nostre attività ai grandi cicli della biosfera e la maniera in cui interagiamo con gli altri organismi viventi determinerà la qualità della vita da adesso in poi.
Yeah. Wir hörten einen Bericht Ecologia Documentario aus den 80er Jahren in der Sendung Grüne Welle. Es geht gleich weiter. Ja, last but not least, les pays plus écologiques, hier werden die Länder beschrieben, die am ökologischsten sind, sprich am wenigsten die Umwelt in schädlichster Weise belasten. Der Ökologiebegriff ist hier stark geprägt durch den Begriff des Umweltschutzes, Umweltverschmutzer und SchützerInnen, werden aufgezählt, sowie jene Länder, die sich am meisten für den Umweltschutz einsetzen, damit die Umwelt gesund bleibt. Quelle ist Le Dessous de Carte. Es werden Zusammenhänge aufgezeigt. Die Schweiz sei Spitze in Sachen Verkehrsökologie. Lassen wir uns überraschen.
Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Nous démarrons cette émission en Allemagne, devant la gare de Neustadt à Dresde, dans la Saxe. Vous le voyez, le nombre de vélos garés est impressionnant. Nous avons cette image d'un voisin allemand davantage que nous, sensible à l'environnement. Pays pionnier de l'écologie politique, pays qui, après la catastrophe de Fukushima, a décidé d'arrêter le nucléaire, de développer massivement les énergies renouvelables. Mais il y a aussi des faits moins positifs. Les énergies fossiles, le culte de la voiture et ce chiffre implacable, l'Allemagne en termes d'émissions totales de CO2 ne se classe pas parmi les bons élèves de l'Union européenne et sa dépendance vis-à-vis de la Russie dans le domaine énergétique complique depuis la guerre en Ukraine encore un peu plus sa situation. L'Allemagne, cas d'école de la complexité de notre sujet du jour, les bonnes pratiques vertes. Quelles sont-elles vraiment ? Où sont-elles ? Comment les évaluer ? Nous le verrons, les indicateurs à respecter sont nombreux et pas toujours compatibles entre eux. Sortons nos cartes. Les premiers partis politiques écologistes émergent à partir des années 1980 partout dans le monde. Leur cause embrasse alors tout autant la protection de la biodiversité que la lutte contre les pollutions ou les accidents industriels. Mais aujourd'hui, c'est sur la question du climat et de son réchauffement dû aux émissions de gaz à effet de serre que se focalisent les concertations internationales et les indices de performance écologique. Vous le voyez, les plus gros émetteurs de dioxyde de carbone sont la Chine, les États-Unis, l'Inde, la Russie, le Japon, l'Iran et l'Allemagne. Les moins émetteurs étant les pays les plus pauvres, comme la Somalie ou le Tchad. Ce classement coïncide d'ailleurs presque exactement avec le classement des pays par produit intérieur brut. Autrement dit, plus les pays sont riches, plus ils sont émetteurs de CO2, alors que les pays les plus pauvres n'ont qu'un impact très limité sur la quantité globale de gaz à effet de serre émis. Mais ce classement par bilan carbone ne donne pourtant qu'un aperçu partiel de la responsabilité des pays dans les émissions de gaz à effet de serre, parce qu'il ne prend pas en compte la délocalisation de certaines productions industrielles. Ainsi, tandis que le bilan carbone de la France a sensiblement diminué depuis une trentaine d'années, son empreinte carbone réelle a, elle, augmenté d'environ 20%, ce qui s'explique par la désindustrialisation du pays et l'augmentation des importations d'objets manufacturés. Selon l'indice de performance climatique, un indice qui met en avant les efforts pour une transition énergétique, c'est la Suède qui est la mieux classée dans le monde, suivie par le Danemark, le Royaume-Uni et le Maroc, grâce à une augmentation considérable de la part des énergies renouvelables. L'Allemagne et la France y sont respectivement classés 19e et 23e, les États-Unis 61e, dernier de ce classement. Mais celui-ci est à son tour très différent de celui de la performance environnementale, un autre indice écologique qui prend en compte, lui, la vitalité des écosystèmes d'un pays, la qualité de son air et de son eau, c'est-à-dire un environnement local sain. Dans ce classement, le Danemark, le Luxembourg et la Suisse sont les mieux notés, la France remonte à la 5e place, l'Allemagne à la 10e et les États-Unis à la 24e sur 180 pays considérés. Mais là encore, il faut nuancer ce classement. Par exemple, le lithium des batteries des véhicules électriques, très bénéfique pour l'environnement des pays qui les utilisent, provient de mines très polluantes, situées essentiellement en Australie, au Chili ou en Chine. Enfin, considérons ce que l'on appelle l'empreinte écologique. Cet indice mesure la surface terrestre nécessaire à la subsistance d'un individu selon son mode de vie. Les surfaces agricoles utilisées pour son alimentation, les surfaces aquatiques correspondant à sa consommation de poissons, mais aussi les surfaces nécessaires pour compenser ses rejets et émissions de CO2.
Il y a tout au long des marchés de Provence qui sentent le matin la mer et le midi, des parfums de fenouil, melons et céleri, avec dans leur milieu quelques gosses qui dansent. Voyageurs de la nuit, moi qui en ribambelle ai franchi des pays que je ne voyais pas, j'ai hâte au point du jour de trouver sur mes pas ce monde émerveillé qui rit et s'interpelle le matin au marché. Voici pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et un kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un beau plateau de pêche ou bien d'abricot. Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte, voulez-vous pas vrai? Un bouquet de lavande ou bien quelques œillets. Et par-dessus tout ça, on vous donne en étrenne l'accent qui se promène et qui n'en finit pas.
Mais
Mais il y a tout au long des marches de Provence tant de filles jolies, tant de filles jolies. Qu'au milieu des fenouilles, melons et céleri, j'ai bien de temps en temps quelques idées qui dansent. Voyageur de la nuit, moi qui en ribambelle ai croisé des regards que je ne voyais pas. J'ai hâte au point du jour de trouver sur mes pas ces filles du soleil qui rient et qui m'appellent le matin. Voici pour 100 francs du thym de la garrigue, un peu de safran et un kilo de figues. Voulez-vous, pas vrai, un beau plateau de pêche ou bien d'abricot? Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte. Voulez-vous, pas vrai, un bouquet de lavande ou bien quelques œillets? Et par-dessus tout ça, on vous donne en étrenne l'accent qui se promène et qui n'en finit pas. À la belle à Poutine, à la belle à Poutine, bay, 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 bay.
Compenser ses rejets et émissions de CO2. Cette surface moyenne permet de comparer l'empreinte écologique d'un Qatari ou d'un Luxembourgeois, les plus élevés au monde, avec celle d'un Américain, d'un Allemand, d'un Français ou d'un Chinois, ou encore d'un Érythréen ou d'un Haïtien, qui sont parmi les plus faibles. En multipliant cette surface par le nombre d'habitants d'un territoire, on obtient l'empreinte écologique globale des pays, avec en tête la Chine et son 1,5 milliard d'habitants, suivi par les États-Unis, l'Inde, la Russie, le Japon, le Brésil, l'Indonésie, l'Allemagne, la Corée du Sud, le Mexique, le Canada et la France. On peut aussi rapporter ce calcul à l'échelle de la planète, c'est-à-dire multiplier cette surface moyenne utilisée par chaque être humain pour sa subsistance par la population mondiale, 7,9 milliards d'individus, et même comparer cette surface virtuelle à la biocapacité réelle de la Terre. Vous le voyez, les prélèvements et les rejets humains sont actuellement supérieurs à ce que la biosphère est en capacité de renouveler et d'absorber. C'est ce même calcul qui permet de déterminer ce que l'on appelle le jour du dépassement, c'est-à-dire le jour de l'année à partir duquel l'humanité commence virtuellement à puiser dans les réserves de la planète. Ce jour ne cesse d'avancer d'année en année. En 2022, c'était le 28 juillet. On l'aura compris, mesurer la performance écologique d'un pays est compliqué, puisqu'une action peut être bénéfique sur un plan, comme la réduction des émissions de gaz à effet de serre, tout en étant négative sur un autre, comme l'altération des espaces sauvages. Malgré tout, on vous propose maintenant un tour d'horizon d'actions concrètes qui sont entreprises partout dans le monde, des initiatives locales qui visent la durabilité, chacune à leur manière. Sur le plan de l'énergie, tout d'abord, vous voyez ici la part du renouvelable dans la consommation des pays d'Europe. En Allemagne, qui cherche à bannir le nucléaire de son mix énergétique depuis la catastrophe de Fukushima en 2011, les énergies renouvelables représentent plus de 40% de la production électrique contre à peine 20% en France, où le nucléaire est largement prépondérant. En revanche, près de 45% de l'électricité allemande est produite par des énergies fossiles, comme le charbon ou le gaz, ce qui, outre le problème écologique, complique actuellement le mix énergétique du pays du fait de la dépendance aux importations de gaz russe. Cette dépendance au charbon explique que l'utilisation d'un véhicule électrique en Allemagne produit finalement le même dégagement de CO2 que l'utilisation d'un véhicule à essence. Le Danemark, lui, précurseur dans l'essor de l'éolien, a divisé par 3 ses émissions de CO2 en une vingtaine d'années en se dotant du plus important parc d'éoliennes mondial par nombre d'habitants. Le pays compte plus de 6000 éoliennes, dont 500 marines. La petite île de Samso, où habitent 3700 personnes, est d'ailleurs la première île au monde à être autosuffisante pour son électricité et son chauffage, grâce aux énergies renouvelables. Direction maintenant San Francisco, qui compte 870 000 habitants. Ici, c'est l'objectif zéro déchet qui est visé. Des fontaines à eau ont été installées en contrepartie de l'interdiction des bouteilles en plastique. Le recyclage et le compostage sont également très favorisés et la ville s'est dotée du plus gros centre de tri au monde. Sur le plan des transports à présent, c'est la Suisse qui possède le réseau réputé comme le plus écologique au monde. Avec un réseau ferré très dense et fiable, les Suisses détiennent le record du nombre de kilomètres parcourus en train par habitant, 2400 km par an en moyenne. Le fret est également assuré aux trois quarts par chemin de fer et l'énergie du réseau est fournie à 90% par l'hydroélectricité.
Tu es le soleil de ma vie. Tu es le soleil de mes jours.
Tu es le soleil de
mes jours. Das war es nun auch schon. Und zwar mit der Sendung Grüne Welle. Frau Rumpeltipumpel darf noch etwas an den Übergängen arbeiten, so wie es aussieht. Es scheint so, zurückschauend, also um das ein bisschen zusammenzufassen, wenn man auf die Berichte zurückschaut, auf Spanisch, Italienisch und Französisch, es habe eine Definitionsverschiebung gegeben von Natur zu Umweltbewusstsein, harmonisches Miteinander, anstatt gegeneinander eher füreinander, in Kooperation eher anstatt Kompetition. Das war's also, die Grüne Welle, am vierten Samstag im Monat in den Landessprachen und mehr. Ich sage nur noch Bundi und so long.
C'est comme si je t'avais.